Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, quelle belle fête, quelle fête consolante que celle de la Toussaint. C'est vraiment la fête de la joie, du bonheur surnaturel, du bonheur que nous apporte notre Seigneur, le règne du Christ roi. Nous nous réjouissons, nous nous félicitons avec tous les saints de leur joie, de leur bonheur éternel. Et puis les saints, à leur tour, intercèdent pour nous et nous montrent leurs exemples pour nous aider à les rejoindre un jour auprès d'eux. C'est vraiment la fête du bonheur surnaturel et c'est pourquoi l'Église a voulu choisir comme évangile celui précisément des béatitudes. Les béatitudes, c'est vraiment comme le cœur, la partie la plus profonde de la morale catholique. Et peut-être en même temps la partie la plus difficile à comprendre. Comment peut-on dire que sont bienheureux ceux qui pleurent? Cela paraît paradoxal, c'est difficile à comprendre. C'est que le bonheur que nous offre notre Seigneur n'est pas un bonheur purement naturel, n'est pas le bonheur de ce monde, mais un bonheur surnaturel, celui qui nous apporte la grâce en cette vie, la gloire dans le ciel. Et aussi, les béatitudes sont très riches. Si on regarde la vie des saints, de tous ces nombreux saints, eh bien on remarque que tous ont bien sûr pratiqué ces béatitudes telles que les a annoncées notre Seigneur. Mais en même temps, quelle diversité parmi tous les saints! Combien de différences! Ils étaient dans des états très divers les uns les autres, dans des siècles différents. Eh bien tous l'ont pratiqué d'une manière toute spéciale. Et c'est l'avantage, eh bien, de lire des vies de saints. Ça nous permet de voir, d'une part, ce qui est vraiment commun entre tous, et puis en même temps, les différences de telle sorte que chacun y trouve des leçons, des exemples adaptés à sa situation particulière. Et puis la première béatitude alors, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Quel sens donner à cette béatitude? Eh bien, les saints nous l'apprennent. Il ne s'agit pas d'une condition extérieure, de la richesse ou de la pauvreté purement extérieure. Il y a eu bien sûr des saints très pauvres. On peut penser à saint Benoît-Joseph Labre, qui était un peu comme le mendiant de Dieu. Il y a eu de nombreux religieux qui ont fait vœu de pauvreté, donc qui ont renoncé à toute chose, à tous les biens extérieurs, pour mieux s'attacher à notre Seigneur. Mais il y a eu aussi des saints qui étaient riches des biens de ce monde. On peut penser à un saint Louis, roi de France, comme roi, bien sûr, il possédait de nombreuses richesses. Alors, qu'y a-t-il de commun entre tous ces saints, dans ces états si divers? C'est le détachement des richesses. Ceux qui les possédaient, comme ceux qui ne les possédaient pas, ces richesses, eh bien, ne s'en souciaient pas. Leur bonheur, ils le plaçaient en Dieu, ils le plaçaient en notre Seigneur. Et pour ceux qui avaient des richesses, s'ils les avaient perdues, ils auraient pu dire, comme le saint homme Job, « Dieu a donné, Dieu a retiré, que son saint nom soit béni. » Parce que ces richesses du monde ne sont pas l'essentiel. Quelle leçon en tirer pour nous? Eh bien, c'est de ne pas nous soucier de ces biens du monde. Et puis surtout, de ne pas juger les gens à leur situation, à leur niveau de vie, comme on dit. Ce ne sont pas ceux qui ont les richesses qui sont heureux. Non, notre Seigneur nous dit que ceux qui sont heureux sont ceux qui possèdent la grâce en ce monde et qui posséderont le royaume des cieux, la vision béatifique dans l'autre vie. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Là aussi, il ne faut pas s'y arrêter d'une manière superficielle. Il ne s'agit pas de la douceur du tempérament, qui parfois, facilement, peut dégénérer en faiblesse. Que l'on pense, par exemple, à un Saint-Pierre qui a jugé deux chrétiens, donc Ananie et Saphir, coupables d'une grave dissimulation. Et sur sa parole, eh bien, Dieu a châtié de mort immédiatement ces deux pécheurs. Un jugement très sévère. On peut penser à saint Ambroise aussi, réduisant Théodose, l'empereur Théodose, coupable d'un grave crime. Eh bien, il l'a réduit à une pénitence publique, très dure. Il l'a chassé de son église, publiquement. Il y a aussi saint Ferdinand, roi d'Espagne, qui a été un des grands artisans de la Reconquista espagnole, donc qui a chassé les musulmans. Et là aussi, donc, c'était pas une douceur extérieure quand il a fait la guerre. Mais ce qui est commun à tous les saints, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas rendu le mal pour le mal. Ils ne se sont pas aigris contre ceux qui les ont offensés personnellement. Ils ont cherché, bien sûr, la gloire de notre Seigneur. Ils ont cherché l'avancement et la correction même des pécheurs, ce qui parfois oblige à utiliser une certaine sévérité. Mais dans les offenses personnelles, ils pardonnaient. Une figure très représentative à cet égard, c'est Saint Pie V. Saint Pie V, qui est très connu, puisqu'il a, c'est celui qui a tout fait pour monter une ligue catholique, pour repousser les musulmans, et qui a abouti à la victoire de Lépante. Il a aussi beaucoup combattu le protestantisme, en France, bien sûr, en Angleterre aussi. Il a démis Élisabeth la Première, bon, même si ça n'a pas été suivi. Donc, très sévère contre l'hérésie, contre l'islam. Et en même temps, eh bien, dans la cour romaine, autour de lui, on disait que le meilleur moyen d'obtenir ses faveurs, c'était de se montrer un peu dur envers lui, de se montrer désagréable avec lui. Parce que, avec les offenses contre sa propre personne, eh bien, Saint Pie V pardonnait. Il pardonnait tellement, eh bien, qu'il comblait de davantage de faveurs ceux qui étaient désagréables avec lui. On peut penser aussi à Saint François de Sales, qui était le saint de la douceur d'une certaine manière, mais qui a été très ferme face à l'hérésie protestante. Donc ainsi, bienheureux les doux, ceux qui pardonnent, ceux qui savent pardonner les offenses faites à leur personne, parce qu'ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ici encore, il ne s'agit pas d'un tempérament triste. Saint Jean Bosco disait qu'un saint triste est un triste saint. On peut penser aussi à la joie de Saint Dominique, qui était si grande, eh bien qu'elle rayonnait sur tout son visage. Donc il ne s'agit pas d'un tempérament morose. Notre Seigneur parle plutôt de ceux qui savent pleurer les véritables maux, les offenses faites à Dieu. Si on y regarde un petit peu, si on fait un examen de conscience, on se rend bien compte que nous sommes bien insensibles au fond face au péché. On s'afflige facilement d'une douleur du corps, on s'afflige aussi, avec raison bien sûr, de la perte d'un être cher. Mais est-ce qu'on y songe? Le péché, c'est bien plus grave que tout cela. C'est bien plus grave que la mort. Et pourtant, eh bien, nous demandons pardon, bien sûr, mais avec tellement de négligence. Les saints n'agissaient pas ainsi. Là aussi, saint Dominique, si heureux tout au cours de la journée, eh bien, pleurait la nuit sur les pécheurs, sur les péchés. Et dans sa prière, il s'écriait « Que vont devenir les pauvres pécheurs ?» Et les biographes racontent qu'une larme n'attendait pas l'autre quand elle pleurait ainsi sur les pécheurs. Il y a aussi sainte Monique qui a pleuré très longtemps parce que son fils s'était écarté de la religion pendant longtemps. Et grâce à ses larmes, eh bien, ce fils est devenu le saint Augustin, le plus grand parmi les pères de l'Église. Alors bienheureux ceux qui savent pleurer leurs péchés, les péchés aussi des autres, parce qu'ils obtiendront dès ici-bas la vraie joie ici-bas, celle de la grâce, et puis au ciel, ils goûteront des consolations éternelles. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cette faim, cette soif, c'est le zèle, un zèle ardent dont parlait notre Seigneur. Le zèle de votre maison, ô Dieu, me dévore. C'est comme un feu ardent dans le Sacré-Cœur. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'un activisme tout extérieur qui ne s'occuperait pas de la prière. Il s'agit bien plutôt de faire de son mieux à l'endroit où Dieu nous place, de faire de son mieux son devoir d'État. On peut penser bien sûr aux apôtres qui ont sillonné le monde, qui ont répandu l'Évangile partout, mais en même temps, à une sainte Thérèse d'Avila, une sainte Thérèse d'Avila qui est la sainte de la contemplation, par excellence, on peut dire. Et pourtant, elle a montré un très grand zèle. Elle a traversé l'Espagne en tous sens pour fonder des couvents, répandre la réforme du Carmel. Mais il y a aussi une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a également pratiqué cette béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice, mais en restant dans son couvent, par une vie tout humble, mais une vie où elle faisait son maximum pour la gloire de Dieu. Il s'agit en fait, comme le disait très bien le Père Calmel, d'aller comme au bout de la grâce reçue, de faire de son mieux à l'endroit où Dieu nous place, pour la gloire de Dieu. Ensuite, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il ne s'agit pas ici de la fausse miséricorde, celle du pape François, celle qui refuse de guérir les pauvres pécheurs, de les avertir. Au contraire, saint Augustin, dans sa règle, dit que c'est une cruauté de ne pas avertir son prochain lorsqu'il pêche, parce qu'on l'abandonne à son pauvre sort, on l'abandonne au fond, au feu de l'enfer. Qu'y a-t-il de plus cruel que cette fausse miséricorde? La vraie miséricorde, c'est celle qui cherche le véritable bien du prochain. Il y a bien sûr les œuvres de miséricorde corporelles, s'occuper des biens du corps. On peut penser à saint Vincent de Paul, qui a tant fait pour les pauvres, et à toutes ces saintes religieuses qui ont guéri, soigné les malades. On peut penser à ceux qui délivraient les captifs, qui visitaient les prisonniers. Ça, c'est les biens du corps. Il y a aussi des œuvres de miséricorde spirituelles, celles d'un saint Pierre Martyr, par exemple, qui était inquisiteur, qui a combattu partout l'hérésie, qui a arraché ce mal de l'hérésie du cœur de tant de gens et par conséquent qui leur a obtenu le bonheur éternel. Il y a le zèle de saint Vincent Ferrier, convertissant les foules, celle du curé d'Ars. Ce zèle-là est multiforme. La miséricorde peut s'occuper des biens, de bien des manières différentes, selon notre condition de vie. À chacun d'entre nous, de chercher à imiter notre Seigneur qui est à la fois le sauveur de nos âmes et qui, au cours de sa vie publique, a guéri tant de malades. Eh bien, les saints l'ont imité, chacun à leur place. Et puis ensuite, c'est la béatitude de ceux qui verront Dieu. Et c'est avec raison qu'elle suit les miséricordieux, parce que, comme le dit saint Grégoire le Grand, on s'élève d'autant mieux vers Dieu par la contemplation qu'on s'est abaissé sur le prochain par la commisération. Ainsi, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est-à-dire les cœurs purs de tout alliage, ceux qui se donnent entièrement à Dieu. C'est la simplicité du cœur. Les chrétiens, tout d'une pièce, comme le disait le Père Emmanuel. Et là aussi, cette pureté du cœur, eh bien, s'exerce dans des états de vie qui peuvent être très différents. Il y a celui des religieux, le temps de saints religieux et religieuses qui ont tout abandonné pour aller à notre Seigneur. Mais il y a eu aussi des saints qui étaient mariés, saint Louis par exemple. Il y a eu aussi des saints pénitents, comme une sainte Marie-Madeleine. Mais tous ont tendu à Dieu de tout leur cœur, dans des états de vie bien différents. Et parce qu'ils se sont donnés entièrement à Dieu, eh bien, ils ont vu Dieu, déjà ici-bas, par la foi, sous les voiles de la foi, par des grâces toutes spéciales, les dons du Saint-Esprit, dons d'intelligence et de sagesse, et puis au ciel, surtout, par la vision béatifique. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ici, notre Seigneur lui-même nous annonce, nous avertit qu'il ne s'agit pas de la paix du monde. Je ne vous donne pas la paix de ce monde. Notre Seigneur est venu, au contraire, apporter le glaive. Il ne s'agit donc pas de ce faux respect, de ce respect humain qui cache sa foi. Il ne s'agit pas de cet œcuménisme tellement répandu aujourd'hui. Saint Antoine de Padoue, un saint qui était si doux, si pacifique, eh bien, on l'a surnommé le marteau des hérétiques. Saint Pie V aussi, qui a organisé la Ligue catholique contre l'islam, un saint Pie X qui a combattu le modernisme, eh bien, c'était pourtant des saints pacifiques. Ils ont pratiqué cette béatitude des cœurs pacifiques. Comment? Eh bien, c'est en répandant le règne de notre Seigneur. On a eu cette très belle préface hier pour la fête du Christ roi. Notre Seigneur apporte avec lui son règne de justice, d'amour et de paix. La véritable paix ne peut venir que de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, les vrais pacifiques, c'est ceux qui répandent ce règne du Christ roi dans leur propre cœur. Ainsi, ils ont cette paix intérieure, cette paix de ceux qui ont vaincu leurs vices, et puis autour d'eux, qui apportent la vraie paix, même pour les sociétés. Comme le dit le cardinal Pie, là, notre Seigneur règne soit par les bienfaits attachés à sa présence, soit par les malheurs attachés à son absence, qui suit forcément le fait qu'il est rejeté par les hommes. Alors les vrais pacifiques, c'est ceux qui répandent son règne. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. C'est la dernière et en même temps c'est la plus grande des béatitudes. Et saint Paul le dit bien, ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire vivre saintement, doivent souffrir persécution. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Le monde persécute forcément ceux qui veulent suivre notre Seigneur. Mais ceux-là sont vraiment bienheureux, car ils sont attachés comme à la croix de notre Seigneur. Ils suivent notre Seigneur partout où il va. Et vraiment, ce sont ceux-là qui régneront avec notre Seigneur au ciel. Alors il ne faut pas s'inquiéter de toutes ces persécutions que nous subissons de plus en plus dans le monde actuel. C'est normal. On doit au contraire s'en réjouir. C'est le signe que nous sommes véritablement avec notre Seigneur, si nous sommes persécutés pour la justice. Bien que Notre-Dame, reine de tous les saints, nous aide à imiter tous ces bienheureux et ainsi à les rejoindre un jour au ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.